Les crises économiques, mode d'emploi. Où en sommes-nous? La monnaie que nous utilisons est un ensemble de promesses, de mises à disposition de billets que les banques de dépôt créent principalement via les crédits qu'elles accordent. Ainsi, la dette des agents économiques, particuliers, entreprises, États, vis-à-vis des banques de dépôt, correspond à la quantité de monnaie en circulation. L'annulation de ces crédits, le remboursement de ces crédits donc, si vous avez bien suivi, détruit la monnaie. Ces crédits devraient participer uniquement à la création et à l'achat de nouvelles richesses, investissements des entreprises ou de l'État et crédits à la consommation. Cela dit, nous avons vu que ce n'est pas le cas puisque les planches à promesses des banques sont également connectées aux achats effectués sur les marchés de l'occasion, principalement des produits financiers et immobiliers. De plus, la production de richesses se mesure par le biais du PIB, un indicateur dont la croissance est l'unique objectif de nos sociétés, alors que ces mesures sont très imprécises, qu'elles incluent tout et n'importe quoi sans aucune distinction d'utilité, et qu'elles excluent de nombreuses richesses réelles tout en en incluant d'autres qui n'en sont pas. Tout va bien donc. Nous avons résumé les principaux mécanismes de l'économie dont la compréhension est nécessaire pour la suite. Pourquoi cette grosse et complexe machine économique produit-elle des crises? Qu'est-ce qui fait capoter le fonctionnement du moteur? Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux origines des crises économiques. Qu'est-ce qu'une crise économique? Une crise économique est un ralentissement de l'activité humaine qui engendre une diminution du niveau de vie des membres de la société que l'on mesure par le biais du PIB. On parle de récession quand la mesure du PIB décroît pendant deux trimestres successifs. Autrement dit, une crise économique correspond à une stagnation, voire à un ralentissement de la croissance du PIB. De la différence entre décroissance du PIB et chute du niveau de vie. Cette définition de la crise comme stagnation voire ralentissement de la croissance du PIB est problématique. En effet, étant donné toutes les limites de cet indicateur, il est assez évident que PIB et niveau de vie ne sont pas la même chose. Le PIB ne mesure l'activité humaine que par sa partie marchande, alors qu'il existe de nombreuses activités qui ne le sont pas, et qui participent pourtant pleinement au maintien du niveau de vie. Vie associative, vie de quartier, événements culturels et sportifs. Le niveau de vie de l'humanité dépend de richesses environnementales que le PIB ne mesure pas. Air pur, eau fraîche, nourriture abondante, environnement non pollué. Le PIB s'intéresse à la valeur marchande des richesses qu'il mesure, alors que c'est leur utilité qui prime lorsque l'on parle de niveau de vie. Le PIB, si on le divise par le nombre d'habitants, donne une moyenne de pouvoir d'achat qui, sans une mesure des inégalités, ne reflète pas correctement le niveau de vie de la population. Le PIB mesure les richesses marchandes réelles. Agriculture, objets manufacturés, véhicules, construction, services de soins, d'éducation, et spéculative, prise de valeur comptable d'un stock par une augmentation des prix, en se basant sur des valeurs d'échange mesurées par des prix qui dépendent de la difficulté de production ou de la disponibilité, offre, et de l'envie d'achat, demande. Cependant, le niveau de vie d'une population dépend aussi d'activités humaines non marchandes et de richesses produites par l'environnement. De plus, la mesure de toutes ces richesses devrait se fonder sur leur utilité plutôt que sur leur valeur d'échange, afin de faire la différence entre les richesses indispensables et celles qui le sont moins. Devrait-on alors changer notre définition de ce qu'est une crise économique? Non. Pourquoi? Parce que, dans l'état actuel des choses, PIB rime avec emploi, qui rime avec pouvoir d'achat. Le PIB mesure indéniablement très mal la quantité et l'utilité des richesses qui permettent à l'humanité de maintenir, voire d'accroître, son niveau de vie. Cela dit, parce qu'une bonne partie des richesses indispensables, nourriture, logement, vêtements, doivent être achetées et que la grande majorité de la population n'a pas accès aux revenus du capital, bénéfices, intérêts, loyers, le salaire permis par l'emploi est le principal moyen d'accéder aux richesses. Autrement dit, même si la diminution du PIB occasionnait un ralentissement de la production d'une richesse dont nous n'avons pas fondamentalement besoin, réduction de la production de véhicules neufs dans un pays développé, par exemple, le chômage induit par ce ralentissement, les ouvriers de l'automobile perdraient leur emploi, provoquerait une diminution du niveau de vie de la population impactée. Dans ce cas, les richesses ne feraient pas défaut. Il y aurait toujours de la nourriture, des vêtements, de l'électricité, du chauffage, des logements dans le pays. C'est l'accès à ces richesses qui ne serait plus possible pour la population impactée. Ainsi, parce que les règles du jeu qui permettent d'accéder aux richesses sont ce qu'elles sont, la réduction du PIB provoque toujours une réduction du niveau de vie d'une partie de la population. Qu'est-ce qui cloche dans la décroissance ? Il est tout à fait légitime de penser qu'une réduction du PIB pourrait bien être une bonne nouvelle. Moins de dépenses inutiles, moins de pollution, moins de stress. Après tout, une récession de 5%, par exemple, ne devrait pas entraîner de catastrophes majeures. Les entreprises devraient parvenir à s'accommoder d'une réduction de 5% de leurs revenus sans nécessairement faire faillite ou devoir licencier. Du côté des consommateurs, 5% de dépenses en moins ne semble pas être une contrainte insurmontable. Alors pourquoi avoir si peur de la décroissance du PIB? Tout est une question d'homogénéité. Si on vous annonce demain matin que vous devez réduire vos dépenses de 5%, vous n'allez probablement pas réduire toutes vos dépenses, nourriture, loyer, internet, bar, vacances, électricité, de 5% uniformément. Vous allez sans doute décider d'aller moins souvent au restaurant ou au cinéma dans un premier temps. Or, si une majorité d'individus décident de faire la même chose que vous, alors les restaurateurs et les gérants de cinéma vont subir une perte de chiffre d'affaires bien supérieure à 5%. Cela les obligera à licencier des travailleurs qui verront leur accès aux richesses diminuer de bien plus que 5%. C'est donc l'hétérogénéité de la décroissance qui pose problème. Notre système économique est comme une fine couche de glace à la surface d'un lac. Allongez-vous de tout votre long en répartissant votre masse et la glace tient. Redressez-vous brusquement et il ne fait aucun doute qu'elle va craquer, vous précipitant dans l'eau glacée. Le déclenchement de la crise. Si analyser précisément pourquoi une crise économique se déclenche et comment elle se propage est parfois très ardu, comprendre le mécanisme de base d'une crise est en réalité très simple. En effet, celui-ci est toujours le même. Les dépenses des consommateurs, particuliers, entreprises et États, et des investisseurs, entreprises et États, permettent les revenus des agents économiques, particuliers, entreprises et États. En échange de ces revenus, certains agents économiques produisent des richesses que d'autres utilisent pour leur consommation ou leurs investissements. La croissance économique se matérialise par une augmentation des dépenses, donc des revenus, qui doit engendrer une augmentation de la production. Un ralentissement économique n'est donc rien de plus qu'un ralentissement des dépenses, revenus, ou de la production. La crise se produit lorsqu'un trop grand nombre d'agents économiques, au lieu d'appuyer sur la pédale d'accélération des dépenses ou d'accélération de la production, se met à faire l'inverse. Deux types de crises économiques, la crise de l'offre et la crise de la demande. La crise de la demande touche directement à la pédale des dépenses. Les agents économiques n'ont plus les moyens ou ne souhaitent plus financer une accélération de leurs dépenses de consommation ou d'investissement, ce qui provoque un ralentissement de la production. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Les dépenses des uns sont les revenus des autres ou, dit autrement, les déficits des uns sont les bénéfices des autres, à l'exception notable des bénéfices comptables. Lorsque les uns n'ont plus les moyens ou ne souhaitent plus financer une accélération de leur déficit, les autres voient leurs bénéfices se réduire. Le deuxième type de crise, que l'on nomme crise de l'offre, touche à la pédale de la production. Il ne s'agit plus d'un problème de financement de telle ou telle activité, mais d'un problème physique, d'absence d'une ressource essentielle au fonctionnement de la machine. En effet, le moteur économique s'appuie sur l'environnement et sur les anciennes richesses qu'il a stockées pour continuer d'accélérer. Ainsi, son bon fonctionnement est dépendant de la solidité de ses piliers. Si nous allons nous intéresser à certains déclencheurs de crise, d'autres seront laissés de côté. Je pense ici à tout ce qui touche directement à la population. Le moteur économique s'appuie en effet sur un autre pilier pour fonctionner, celui des hommes et des femmes qui en font partie. Le refus, grève, boycott, révolution, ou l'incapacité, virus, guerre, de coopération d'un nombre suffisant de participants peut être un puissant déclencheur de crise de l'offre ou de la demande. Je ne vous fais pas un dessin, vous avez bien compris que l'on a traversé une crise de ce type au premier semestre 2020 avec le Covid-19 et l'incapacité temporaire de travail que la pandémie a engendrée pour une grande partie de la population mondiale. L'environnement, le grand absent de l'économie, mais le plus gros facteur de crise de l'offre. D'où vient réellement la croissance économique? On estime qu'en 1800, sur les 27,5 millions de Français que comptait le pays, 77% habitaient dans les campagnes et 66% dépendaient directement de l'activité agricole pour vivre. Le moteur économique français produisait alors essentiellement de la nourriture pour les hommes et les animaux. Ainsi, la quantité de richesse produite par habitant était d'environ 1 500 $ par an, PIB par habitant. Aujourd'hui, sur les 65 millions de Français, 19% habitent les campagnes et les emplois agricoles ne représentent plus que 2,8% du total. Dans le même temps, la richesse créée chaque année par la France a été multipliée par 25. Le PIB par habitant est aujourd'hui de 40 000 $. Que s'est-il passé? Comment la population française a-t-elle pu démultiplier sa puissance de production de richesses? L'éducation et les connaissances scientifiques sont évidemment passées par là. Mais lorsque l'on regarde les reconstitutions historiques de la croissance du PIB, on remarque que cette dernière a commencé à exploser à un moment bien particulier de l'histoire, le 19e siècle et la fameuse révolution industrielle. Pourtant, l'homme moderne existe depuis quelques centaines de milliers d'années et nous sommes devenus agriculteurs il y a 10 000 ans. Alors pourquoi ce démarrage en trombe au 19e siècle? La menace de la crise énergétique. La réponse est simple. Les énergies fossiles sont passées par là. Si tous les pays développés ont transité d'économies essentiellement paysannes au XVIIe et XVIIIe siècle vers des économies industrielles puis de services au XIXe et dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est grâce à l'immense puissance des machines agricoles et industrielles. Elles nous ont permis de remplacer des centaines de personnes au travail dans les champs et les usines par quelques conducteurs de machines. Petite prise de conscience. Rendez-vous compte, il fallait 65 personnes au travail pour en nourrir 100 en France en 1800, quand il n'en faut plus que 3 aujourd'hui. Le calendrier des vacances scolaires de l'école laïque de Jules Ferry, mis en place dans les années 1880, a été décidé en fonction des moissons pour permettre aux enfants de venir aider aux champs, tellement ce travail nécessitait une quantité de bras importante. Sans les merveilles de technologie que sont le procédé Haber-Bosch, qui permet la production industrielle d'engrais moyennant la combustion de charbon ou de gaz, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les trains et les camions qui transportent notre nourriture dans nos villes géantes, nous serions beaucoup plus nombreux à vivre et à travailler dans les fermes. Même une tâche aussi banale que la lessive demandait aux femmes des heures de travail chaque semaine avant l'avènement de la machine à laver. Au passage, il y a 5 milliards d'individus sur Terre qui n'ont pas encore accès à cette technologie. Dernier exemple, la construction du canal de Suez, un ouvrage de 190 km de long, commencé en 1859, a duré 10 ans et mobilisé 1,5 million d'ouvriers égyptiens. En comparaison, le percement du tunnel ferroviaire de base du Saint-Gothard, creusé sous un massif alpin de 2450 mètres de hauteur et représentant 150 km de galeries, a nécessité 15 ans de travail à 1500 personnes entre 1996 et 2011. 1000 fois moins de bras que pour le canal de Suez. Tout cela grâce à des tunneliers géants de 95 tonnes et de 7 mètres de hauteur, alimentés par des moteurs électriques dont la puissance avoisine les 2100 kW. Comptez 33 600 cyclistes pour 8 heures d'utilisation. Ainsi, l'avènement de la croissance économique correspond au moment où l'humanité, qui exploitait déjà le vent et le soleil pour différents usages depuis des milliers d'années, a appris à domestiquer le charbon, puis le pétrole et le gaz, comme source d'énergie. La puissance physique nécessaire à la production de 40 000 dollars de richesse par chaque Français, PIB par habitant, a donc tout à voir avec la puissance des machines que nous utilisons et rien à voir avec la puissance de nos bras et de nos jambes. Si nos connaissances se sont accumulées à un tel rythme depuis la révolution industrielle, c'est parce que les machines se sont petit à petit accaparées tout le travail physique, nous laissant ainsi libres de nous concentrer sur des tâches majoritairement intellectuelles. Les machines ultra-puissantes alimentées aux énergies fossiles nous ont permis de produire suffisamment de nourriture pour multiplier notre population, tout en nous libérant un temps considérable pour réfléchir. Réfléchir à des méthodes d'organisation, d'amélioration et de production de nouvelles machines productrices de richesses. Une fois ce fait intégré, la notion de productivité des travailleurs devient toute relative. Le grand mythe de la productivité. Qu'est-ce que la productivité ? Peut-être avez-vous entendu dire que la productivité des travailleurs français était l'une des plus élevées au monde. À 63 dollars par heure, elle est en effet presque 2 fois supérieure à celle des Sud-Coréens et plus de 8 fois supérieure à celle des Indiens. Cela veut-il dire que nous sommes des travailleurs excessivement efficaces ? Pas du tout. La mesure de la productivité se résume à une simple division, PIB de la nation divisé par nombre d'heures travaillées. Les nations les plus productives sont celles qui vendent les machines ou les services les plus chers, en y passant le moins de temps. Comment y arrivent-elles ? Grâce à l'automatisation. Plus vos machines sont efficaces et autonomes, c'est-à-dire qu'elles requièrent un petit nombre de pilotes et d'agents de maintenance, plus vous pouvez augmenter la quantité de richesses produites tout en minimisant la quantité d'heures de travail humain nécessaires. La productivité française est 2 fois supérieure à celle de la Corée du Sud, non pas parce que les Français sont 2 fois plus efficaces, compétents ou éduqués, mais parce que le temps de travail des Français est en moyenne 30% moindre qu'en Corée du Sud, tandis que les richesses produites se vendent 25% plus cher. Comment la productivité française a-t-elle doublé entre 1970 et 2017 ? Grâce à des machines plus efficaces. Et je ne parle pas que des énormes machines industrielles automatiques qui assemblent les voitures. Vous avez dans votre poche un smartphone dont la puissance est des millions de fois supérieure à l'ensemble des capacités de calcul de la NASA à l'époque où elle a envoyé des hommes sur la Lune en 1969. L'augmentation de la productivité agricole, industrielle et de nos services n'est pas liée à l'augmentation de la dextérité des travailleurs, mais à celle des outils que nous utilisons. Les transports sont plus rapides et nombreux, les bâtiments sont plus confortables, les ordinateurs sont plus performants, les logiciels automatisent les tâches, nous libèrent du temps et des serveurs tournant 24 heures sur 24 permettent l'existence d'un réseau mondial de partage de données, Internet. Au fait, l'électricité utilisée par Internet est de l'ordre de 872 TWh par an, soit 50% de plus que l'ensemble de la production électrique française, ou encore 4,8 milliards de cyclistes qui pédalent toute l'année. C'est cadeau. Ce sont toutes ces machines qui permettent à notre productivité d'augmenter. Autrement dit, la hausse du PIB n'a pas grand-chose à voir avec le fait que nous travaillons mieux. Elle est directement liée au fait que nous utilisons des outils toujours plus performants qui travaillent mieux à notre place et qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. On peut d'ailleurs le constater en faisant le rapport entre l'énergie consommée et le PIB. La croissance économique mondiale, croissance du PIB, évolue en corrélation parfaite avec l'augmentation de la consommation d'énergie. De 40 000 TWh consommés en 1960 pour un PIB d'un peu plus de 10 000 milliards de dollars, nous sommes passés en 2017 à plus de 160 000 TWh consommés pour un PIB s'élevant à presque 80 000 milliards de dollars. Cela signifie deux choses. Premièrement, sans être une condition suffisante, nos machines sont une condition nécessaire au maintien et à la croissance du PIB. Sans machines fonctionnelles, notre activité économique s'effondrerait totalement, ce qui nous laisserait avec de nombreuses personnes sans emploi et donc sans pouvoir d'achat. Pire, le scénario d'un manque de machines fonctionnelles nous plongerait dans une situation où de nombreuses richesses ne pourraient tout simplement plus être produites par manque d'énergie. Les humains sont en moyenne 100 fois moins forts que les machines qu'ils utilisent. Et par manque de temps, sans machines, une bonne partie de la population serait dans les champs et au lavoir. Ainsi, encore davantage que la question de la production de nouvelles machines, la question du maintien du parc de machines existant en bon état de fonctionnement est cruciale pour maintenir notre niveau de vie. Deuxièmement, nos machines sont inutilisables sans énergie. Or, la grande majorité d'entre elles se classent en trois catégories. Les transports, qui utilisent à 95% des dérivés du pétrole, les machines électriques, et les machines qui servent à chauffer nos aliments, nos bâtiments, nos maisons, l'eau de nos douches ou encore nos fours industriels. Il est absolument indispensable de continuer d'approvisionner ces machines en énergie, sans quoi notre PIB s'effondrerait. Conclusion, pour éviter une crise économique, il nous faut maintenir en bon état notre parc de machines et continuer d'extraire suffisamment d'énergie de l'environnement pour les faire fonctionner. Où est le problème?